de voir un peu ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Joseph, vous connaissez bien l'histoire de Joseph?
On est heureux de vous revoir.
Vous connaissez l'histoire de Joseph? Oui, tout le monde? Donc il ne faudra pas aller dans les détails pour tout expliquer. Ok, ça va. Donc on va voir si ça marche cette histoire-là. Voilà le texte que je voulais simplement vous partager, bien que l'histoire de Joseph parcourt plusieurs chapitres. Vous savez qu'on commence au chapitre 37 et on termine dans les 40. Bon, on va pas vous dire. Mais voilà le texte que je vous propose. Donc c'est quand Joseph était parmi déjà le père de toute l'Égypte. Alors on lit ça. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père est-il encore ?» Mais ses frères, oh, c'est quoi ça? ne lui répondent, car ils étaient épouvantés de se trouver en face de lui. Joseph dit à ses frères, je vous en prie, approchez-vous de moi. Alors ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère. Alors, j'ai souligné certaines choses, hein. Que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Donc, Joseph a peur de rappeler ce qui s'est passé. Hein? Que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Bon, pour être conduit, c'est pour arranger un peu la phrase. Ici, car c'est pour vous garder en vie. Que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans qu'il y a la famine dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu fait bien les choses, hein. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de survivre par une grande délivrance. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, premier ministre, on va dire, du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Ça, c'est extraordinaire de voir la réaction de Joseph. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un qui s'appelle Joseph. Non, hein? Pour ceux qui doivent encore se marier ou qui sont juste mariés, qui ont des enfants, pensez à ça. C'est un beau nom, non, Joseph? Ça fait un peu vieux, mais c'est un beau nom. Donc, si j'ai bien compris ce que nous avons lu, Dieu a envoyé Joseph dans le pays d'Égypte. Joseph était un tout jeune garçon, occupé de servir son père et la maison de son père en gardant les moutons. Et Dieu l'a pris et l'a envoyé. Il l'a envoyé en Égypte, dans un pays qu'il ne connaissait pas, un peu comme Abraham, afin de garder en vie son peuple, afin de garder en vie son peuple. Vous savez que la famille de Joseph est arrivée là-bas, ils étaient combien?
70.
70, c'est pas grave. Ils étaient 70. Après 400 ans, c'était un peuple de plus de 3 millions de personnes. Donc Dieu a envoyé Joseph pour garder en vie ce peuple qu'il est réservé pour lui. Vous saisissez? Et Dieu a employé ce garçon. Et de donner de la nourriture. Aussi pour donner la nourriture aux descendants d'Abraham. Donc Dieu a appelé ce jeune homme-là pour donner de la nourriture. Non pas seulement aux descendants d'Abraham, mais à toutes les nations qui se trouvent autour. Parce que les nations autour de l'Égypte, on venait de toutes parts, hein, si vous lisez bien le texte, pour venir acheter du blé. Donc Joseph n'était pas le plus jeune de toute sa famille. Il était quoi? Il était le onzième garçon de 12 garçons. Et Dieu l'a envoyé là-bas. Joseph, sans le vouloir, je crois en tout cas sans le vouloir, s'était mis à dos ses 10 frères. Les 10 qui étaient au-dessus de lui lui en voulaient à mort. Et je pense que ce sentiment est aussi venu un peu à cause de l'attitude du papa. C'était son chouchou, hein, c'était son préféré. Alors il y a un danger aussi pour nous de faire des différences entre les enfants. Nous avons 6 enfants, peut-être que vous en avez moins ou plus, je ne sais pas, mais attention de ne pas faire des différences parce que ça peut créer des attitudes, des jalousies entre les enfants. Et là c'était le cas. Pour ne pas arranger les choses, eh bien, Joseph, lui, a raconté les songes qu'il avait. Un songe, bon, c'est un rêve dans lequel Dieu parle d'une manière codée. Et bon, Joseph, lui, probablement sans vouloir se vanter, il a simplement raconté la chose extraordinaire qu'il a vécue avec son Dieu, et il a raconté ça à ses frères, et puis à son père et à sa mère. Ça n'a pas arrangé les choses du tout. Toute la famille était contre lui. Et ses frères ont décidé de l'éliminer. C'est ainsi que, finalement, au lieu de le tuer, les frères l'ont vendu, c'est ça que nous avons lu le texte là, les frères l'ont vendu comme esclave à des marchands qui passaient et qui allaient vers l'Égypte. Il fut vendu pour combien de pièces ? Pour 20 pièces d'argent. Vous pouvez penser certainement à quelque chose, à quelqu'un. Christ a été vendu, lui, pour 30 pièces d'argent. Donc il y a une similitude là-bas, il y a comme un message déjà... donner de ce qui va se passer plus tard. Mais Dieu avait le contrôle. Dans tout ça, Dieu avait le contrôle. Dieu n'était pas dépassé par les événements. Et ce qui est le plus intéressant, à mon sens, c'est que Joseph prend conscience que c'est Dieu qui a le contrôle. Il sait que Dieu a le contrôle sur sa vie. Alors là, il n'y a pas beaucoup de personnes que j'ai rencontrées comme cela qui savaient pertinemment bien que Dieu avait le contrôle sur sa vie. Oui, on le dit. On le dit, oui, c'est Dieu mon maître. Mais le vivre, l'expérimenter, c'est autre chose. Et finalement, comme j'ai dit, au lieu de le tuer, ils l'ont vendu. Dieu est en contrôle des événements, c'est lui qui tient le calendrier. C'est pas nous, c'est Dieu. Et en Égypte, il fut vendu d'abord comme esclave à un chef de la prison royale, un certain Potiphar, et vous savez que c'est extraordinaire ce qui s'est passé. On n'entend jamais Joseph se plaindre de sa situation. C'est un jeune garçon innocent, il a 17 ans. Il se passe des choses incroyables dans sa vie. Il est vendu comme esclave par ses propres frères. Et puis il est vendu au chef de la prison. Mais Dieu, dans toute cette situation, est en contrôle et Dieu bénit Joseph. Il est béni dans l'adversité. À tel point que le chef de la prison le remarque. Et comme Dieu est occupé de bénir Joseph, bien sûr, on va en profiter. Donc, il le met comme intendant sur toute sa maison. Et bien sûr, sa maison est bénie. Sa maison est bénie par ce jeune homme qui a été vendu comme esclave. C'est compliqué, hein? Et cet homme qui est chef de la prison royale est béni par ce jeune garçon qui subit une épreuve extraordinaire, non? Il est déraciné de sa famille, sans aucun motif, et vendu comme esclave. Cependant, la femme de Potiphar l'a faussement accusée, et voilà que Joseph, finalement, eh bien, il est mis en prison. Encore une fois là, innocent, mais il est mis en prison. On ne voit nulle part Joseph qui n'est pas content de sa situation. Si Joseph aurait été belge, on l'aurait entendu se plaindre. Mais là, bon, heureusement, il n'était pas belge, là. Donc, il ne s'est pas plaint, le garçon. Apparemment, je ne sais pas comment il a fait, mais vraiment, et il est en prison. Et de nouveau en prison, malgré cette situation délicate, Dieu le bénit d'une manière extraordinaire. À un tel point que le chef de la prison le remarque, mais se dit, c'est pas possible. Et lui donne aussi une place dans cette prison. Dans cette prison est amené deux personnages importants qui servent à la cour. Les chansons et les panetiers. Vous savez l'histoire. Et ces gens-là ont un rêve, un songe. Et ils sont embarrassés parce que ils se demandent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et Joseph leur dit, Dieu est occupé de vous parler, de vous dire ce qui va se passer dans votre vie. Et effectivement, ça se passe. Et un jour, Pharaon, le roi d'Égypte, lui aussi eut un songe. Et on n'arrivait pas à lui donner une explication. Et ce songe était double, c'est un double songe. Mais un seul message venu de Dieu, Dieu révèle au Pharaon, au roi d'Égypte, ce qu'il va faire dans son propre pays. Et il lui communique ça par ce message codé, encore une fois. Et finalement, on appelle Joseph pour donner l'explication. Alors voilà un petit peu un verset que je vais tirer de là pour nous souvenir un peu de ça. Le pharaon dit à Joseph, puisque Dieu, c'est ça qui est extraordinaire aussi, bon, il reconnaît que ce jeune enfant, cet adolescent ou ce jeune homme, c'est Dieu qui lui a fait connaître ces choses. Il reconnaît que Dieu travaille dans ce jeune homme. Il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Pharaon dit? Vous ne pensez pas qu'il y avait des sages en Égypte? Mais cet homme qui était un polythéiste, pour lui, les dieux, il avait en masse. Mais tu seras donc à la tête de mon royaume, de tout mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Moi-même, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. Ainsi, lui dit-il, je te mets à la tête de toutes les... Alors, bon, raisonnons un petit peu. Voilà un jeune homme. Bon, il avait plus que 17 ans à cette époque-là, il devait s'approcher un peu de la trentaine. Mais voilà un jeune homme qui n'est pas égyptien, qui est israélite, on va le mettre comme ça, qui est juif. Et le roi d'Égypte le met à la tête de son propre pays. Est-ce que c'est pas grave? Alors on douterait encore de notre Dieu. Pour nos petites affaires humaines de tous les jours, là. Comment on peut douter de Dieu? Dieu qui a le contrôle, c'est surtout un juif à la tête de l'Égypte. C'est incompréhensible. Dieu fait ce qu'il veut quand il le veut. Voilà comment un simple homme, un jeune homme, comment un jeune homme, le fils aimé de son père, alors âgé de 17 ans, a été vendu comme esclave par ses propres frères, et après quelques années, s'est retrouvé en prison. Il est ensuite sorti de prison d'une manière incroyable pour terminer comme gouverneur d'un pays. Il avait alors 30 ans. 30 ans. Est-ce qu'il était plus intelligent que tous les autres tout autour de lui, que tous ses frères? Non. C'est Dieu qui l'a mis dans cette position. C'est Dieu qui lui a permis de comprendre, de décoder ses songes. Ce n'est pas lui. Il est insignifiant. Il était le 11e dans sa famille, franchement. Mais Dieu l'a choisi. Dieu connaît les cœurs et Dieu l'a choisi. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Joseph a perdu 13 années de sa vie dans l'esclavage, dans la prison, injustement, sans qu'il ait commis aucune faute particulière. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi? Pourtant, pendant toutes ces années, la présence de Dieu est évidente dans la vie de Joseph. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Dieu l'a béni au travers de l'adversité. Et finalement, il fut celui qui sauva le peuple de Dieu. Alors, ça ressemble fort à Jésus-Christ. Hein? Cette histoire ressemble fort à Jésus-Christ. C'est comme une typologie de Jésus-Christ. Comme un message déjà donné à l'avance de la venue de Jésus-Christ. Vendu par ses frères pour 20 pièces d'argent. Et puis, il a sauvé le peuple de Dieu. Et il a nourri. Il a nourri beaucoup de peuples. C'est la manière de Dieu de se faire connaître aux hommes. C'est la manière de Dieu de se faire connaître aux hommes. C'est un peu la même chose avec Pharaon et tous les miracles. C'est la manière de Dieu de se faire connaître aux hommes. Il n'y avait pas d'Internet à cette époque. Et dans tous les pays aux alentours, jusqu'au Liban, en Jordanie, partout, on savait ce que Dieu avait fait pendant cette traversée du désert. C'est la manière que Dieu emploie pour se faire connaître aux hommes et donner l'occasion aux hommes de le glorifier. Et donner l'occasion aux hommes de le glorifier. Maintenant, on va avancer un petit peu dans cette idée. Mais quelle est la réaction de Joseph dans tout cela? Parce que Joseph, c'est comme un pion que Dieu est occupé d'employer. Quelle est la réaction de Joseph? Alors ça, c'est intéressant, à mon sens. Alors, j'ai mis un autre verset là. On ne voit pas bien, c'est un peu petit pour vous. Hein. Maintenant donc, dit-il à ses frères, maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, seigneur de toute la maison et gouverneur de toute sa maison et gouverneur du pays d'Égypte. Donc ça veut dire que pour Joseph, il reconnaît que tout ce qui s'est passé dans sa vie, les malheurs par lesquels il est passé, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a béni au travers de l'adversité, mais s'il est passé au travers de l'adversité, c'est Dieu. C'est pas quelqu'un d'autre, n'allons pas plus loin, n'allons pas plus haut, il n'y a personne. C'est Dieu qui est responsable. Et Joseph reconnaît cela. C'est Dieu qui est responsable. Ce qui m'arrive, c'est Dieu qui est responsable. Et il s'humilie parce qu'il accepte ce que Dieu a décidé pour sa vie. Il n'est pas occupé de se rebeller contre Dieu, il accepte ce que Dieu a décidé pour sa vie. Et c'est pourquoi il est béni. Au travers des difficultés, Dieu l'encourage au travers des circonstances. Il n'en veut pas du tout à ses frères. Pourquoi il n'en veut pas à ses frères? Parce que c'est Dieu, c'est pas ses frères. Ses frères ont été des outils que Dieu a employés, excusez-moi l'expression d'outils, mais c'est Dieu en réalité. Et si on reconnaît que c'est Dieu qui est là au gouvernement de ma vie, si quelqu'un me fait du tort, c'est parce que Dieu l'a bien voulu. Vous vous souvenez de David? Et puis il y avait ce... Comment il s'appelait encore là? Le gars là qui a commencé à le... Shimei. Et puis David fuyait devant son fils. Et puis voilà que... David, qu'est-ce qu'il a dit? Dans le faire. S'il dit toutes ces mauvaises paroles contre moi, c'est parce que Dieu l'a demandé de le faire. Vous comprenez le système de pensée qui est pas mal différent que ce que nous faisons d'habitude. Mais si je crois vraiment que c'est Dieu qui contrôle tous ces événements, je ne vais pas en vouloir essayer de me venger sur celui que Dieu emploie pour ces événements. Puisque je sais que c'est Dieu. Alors, reconnaître la main de Dieu dans ce qui m'arrive, nous aide à quoi? D'abord à nous humilier devant Dieu, bien entendu, à rester humble. Si je suis dans cette position, si Dieu m'a accordé cette position, c'est pas à cause de moi. C'est pas parce que je suis meilleur que mon frère ou que ma sœur. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a mis là. Alors je peux essayer de monter les échelons comme je veux de, avec mes propres forces, mais si Dieu n'a pas réservé ça pour toi, oublie-le. Tu te fais du tort. Donc, de reconnaître, rester humble. Oh, je me trompe toujours de sens, là, voilà. Ne pas en vouloir aux autres. Parce que les autres sont des acteurs. Vous comprenez? C'est Dieu qui écrit le scénario. Nous sommes les acteurs. C'est pas nous qui faisons l'histoire. On pense parfois que c'est nous qui faisons. C'est Dieu qui rédige l'histoire. Pas seulement l'histoire de la Belgique. L'histoire du Congo. Et l'histoire de ce monde entier où les gens vivent. Dieu a déjà rédigé cette histoire depuis longtemps. Nous la vivons. Nous en sommes des acteurs. Et parfois des mauvais acteurs parce qu'on n'est pas content là. Donc, ça nous aide aussi à comprendre que Dieu m'inclut dans son plan du salut. Dieu m'inclut dans son plan pour les autres. Est-ce que je suis prêt à ça? Et si Dieu a permis ça, c'est que Dieu a une bonne raison. Dieu est amour. Donc, Dieu a une bonne raison pour que je passe par là. Et que finalement, ça va contribuer à la gloire de Dieu et aussi à ce que moi je ressemblerai de mieux en mieux à Jésus-Christ. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. C'est Dieu qui écrit le scénario de notre vie. C'est Dieu qui écrit le scénario de notre vie. Nous sommes les acteurs. Et les moments les plus durs et les plus difficiles de notre vie ont été dictés par Dieu. Et ça, nous l'oublions bien souvent. Ça, c'est un verset que j'ai pris dans... Oh, il n'est pas là. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude avec cette tablette-là. Donc, mais ne sais-tu donc pas que moi, l'Éternel, j'ai décidé depuis longtemps tous ces événements? Et que, depuis les temps anciens, j'en ai formé les plans. Et à présent, j'accomplis ce que j'ai résolu. Et ainsi, je t'ai amené à réduire en morceaux de ruines des villes fortifiées. Il s'agit de Sanchérib, qui avait envoyé son général pour aller attaquer le pays d'Israël. Et c'était l'histoire avec, vous savez, Ézéchias. Ézéchias a prié et puis Dieu est intervenu. Cet homme, Sanchérib, était très orgueilleux et pensait que c'était lui qui avait la force de pouvoir la puissance de pouvoir envahir le pays d'Israël. Mais Dieu va dire cela à son gérer. Ben c'est moi qui ai décidé ça depuis longtemps. Dieu a décidé de laisser son peuple aller en déportation. Alors réfléchissons à tout. Voyons que quelques générations avant, Dieu avait dit ceci à Abraham. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des émigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Et lisez bien ce qui est marqué. Combien d'années avant l'histoire de Joseph? Où se trouve Joseph par rapport à Abraham? Qui était la directe ligne d'Abraham? C'était qui? Le suivant? Isaac. Après Isaac, Jacob et Joseph se trouvent où? En fils de Jacob. Ok? Donc ça fait la quatrième génération. On va dire la quatrième génération. Donc vous voyez ici, quatre générations avant, Dieu a dit à Abraham, sache que tes descendants seront des émigrants dans le pays qui ne sera pas le leur. Ils seront comment? Esclaves. Et seront maltraités pendant 400 ans. Mais est-ce que vous comprenez ce que Dieu nous fait faire? Et Dieu peut donner un message clair, pas codé, hein, clair à Abraham de ce qui va arriver quatre générations après. Maintenant, avec l'histoire de Joseph, nous nous inscrivons dans ce programme ici. Vous comprenez? Mais je jugerai la nation dont ils auront été esclaves. Et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Est-ce que vous vous rendez compte? Abraham, il s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais déjà, le message était donné. Toi, tu mourras en paix et tu seras enseveli. Après une heureuse vieillesse, à la quatrième génération, ils reviendront ici, car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Vous voyez que le programme que Dieu, le plan que Dieu a établi n'est pas seulement pour son peuple. Il a aussi à voir avec les autres peuples. Là, le peuple de Dieu ne pouvait pas intégrer le pays parce que ce n'est pas encore le temps. Le temps n'était pas encore là. Il fallait attendre la déchéance morale des Amoréens. Alors Dieu allait intervenir pour liquider ce peuple-là. Alors pour nous, ça nous semble bien, mais nous voyons que Dieu a une vaste vision des choses. Hein. Nous voyons juste là, juste ce qui est devant nous. Et encore, on tombe souvent, parce qu'on ne voit même pas ce qui est devant nous. Ah, c'est extraordinaire de voir ça. Dieu a planifié d'avance toutes ces choses. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Bon, voilà. Israël dit à Joseph, voici que je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et vous fera revenir dans le pays de vos ancêtres. Donc Joseph a dit à la fin de sa vie, ramenez mes os dans le pays parce que je sais que Dieu va vous ramener dans le pays. Donc Joseph aussi avait une vision assez du futur assez clair, hein, planifié par Dieu. Dieu est souverain à la fois dans les bons et dans les mauvais jours. Alors, ça nous donne, on a parfois des difficultés à comprendre ça, que Dieu, n'est pas seulement là quand tout va bien, mais Dieu est aussi là quand tout va mal. Et je dirais même que Dieu, d'ailleurs, heureusement que nous avons l'histoire de Job dans le fond, parce que ça nous donne une image que Dieu est en contrôle et que ce n'est pas seulement les choses bonnes, Dieu n'est pas seulement présent quand des choses bonnes nous arrivent, mais aussi quand les calamités, les problèmes nous arrivent. Dieu est toujours présent et Dieu l'a permis, l'a autorisé. Alors ici, Esaïe nous dit cela, que je forme, Dieu nous dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Là, on a parfois des difficultés avec ça. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Donc Dieu est là aussi dans les mauvais jours. Et si les mauvais jours sont là, c'est parce que Dieu a autorisé que ces mauvais jours nous arrivent. Alors, quelle est notre réaction? Dieu n'a pas le dos tourné lorsque frappe l'adversité. Il en est même l'auteur. Est-ce qu'on est prêt à accepter ça? Hein, bon, ce que je vous disais tantôt, l'histoire de Job nous rappelle cela. Mais il répondit, bon, ça c'est le deuxième, c'est dans le deuxième chapitre où la femme de Job lui a dit, mais écoute, renie Dieu et meurs. Alors, regardez ce que Job va dire. Tu parles comme une femme insensée. Je me demande si je peux parler une fois de cela, parce que le terme là, c'est Nabal. Il parle comme une Nabal, c'est-à-dire une qui est folle. Et vous connaissez l'histoire de Nabal? Exactement. Son nom correspond à ce qu'il est. Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Regardez ce qui est écrit après. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc ce que Job vient de dire, le témoignage est celui-là, Job a dit ce qu'il fallait dire. Il a dit quoi? Il a dit qu'on reçoit de Dieu le bien et qu'on reçoit aussi de Dieu le mal. Wow. Ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir. Et si Dieu permet que le mal nous arrive, il y a une raison. Et une bonne raison. Et pour nous, c'est compliqué à comprendre. Et cette histoire de Joseph nous permet de comprendre au moins pourquoi. Bon, quand on lit ces versets, on pourrait se dire, mais Dieu pourtant est amour, qu'est-ce qui se passe? Dieu est pourtant amour. Pourquoi alors permet-il que des choses mauvaises m'arrivent? Alors, quand nous posons cette question, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous mettons au centre de l'univers. Pourquoi Dieu cela m'arrive? Mais ce n'est pas moi qui est au centre de l'univers. Dieu n'est pas là pour moi. C'est moi qui suis là pour Dieu. Dieu n'existe pas pour que l'homme puisse en profiter. Mais nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Nous sommes là, si je vis, c'est pour glorifier Dieu. C'est pas pour bien vivre ma vie et d'être content dans mon petit coin. C'est pas ça. La raison de mon existence, c'est la gloire de Dieu. Alors souvent, nous faussons un petit peu les idées. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les fils d'hommes. Quand on foule aux pieds tous les prisonniers d'un pays, quand on fait dévier le droit humain à la face du Très-Haut, c'est-à-dire Dieu le voit bien, quand on fait tort à l'homme dans son procès, injustice, ça vous est arrivé? Le Seigneur ne le voit-il pas? Qui est celui qui dit et cela fait? Le Seigneur n'est-il pas celui qui commande? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les mots et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Autrement dit, c'est quoi ça veut dire ça? S'il m'arrive quelque chose, c'est parce que Dieu l'a ordonné. C'est ça que ça veut dire. S'il m'arrive du bien, c'est parce que Dieu l'a ordonné. S'il m'arrive du mal, c'est parce que Dieu l'a ordonné. Et pourquoi? Pourquoi Dieu permet cela? Pour sa gloire. Mais quand est-ce que Dieu est glorifié quand un de ses enfants est dans l'adversité? Est-ce que Dieu est glorifié quand un de ses enfants est dans l'adversité et se plaint de sa situation? Est-ce que Dieu est glorifié? Est-ce que Dieu est glorifié quand moi je me révolte contre Dieu parce que Dieu a permis que cela m'arrive? Est-ce que Dieu est glorifié? Dieu est glorifié quand nous sommes comme des Joseph qui acceptons ce que Dieu veut pour nous et qui vivons le plan de Dieu que Dieu a réservé pour nous. Alors Dieu est glorifié, bien entendu. Et le fait que Dieu est souverain, que rien ne s'oppose à sa volonté, n'enlève pas non plus la responsabilité de l'homme, parce qu'on pourrait se demander, mais alors quoi? Mais vous voyez que les frères, on a reconnu que les frères avaient mal fait. Eux-mêmes ont reconnu qu'ils avaient mal fait. Je relis le texte. C'est ce qu'ils firent. Tout en disant l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère. Car nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce. Et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous arrive. Ruben, prenant la parole, son plus âgé, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez pas un crime contre cet enfant, mais vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, son sang nous est réclamé. Donc, ils savent qu'ils ont mal fait. Ils savent qu'ils sont mal faits. Ils sont responsables de leurs actes. Mais Dieu a employé tout ça pour sa gloire. Alors, quand le père est mort, les frères ont eu peur. Les frères ont eu peur parce qu'ils se sont dit, maintenant que le papa est mort, eh bien, Joseph va nous en vouloir à mort et va nous faire mourir. Alors, qu'est-ce que Joseph... Ils sont venus auprès de Joseph. Et voilà ce que nous lisons. Ses frères vinrent en personne se jeter à ses pieds en disant, « Nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur dit, « N'ayez aucune crainte. Suis-je à la place de Dieu ?» Ça, c'est extraordinaire. Quand j'ai mis ça en route, je trouve ça extraordinaire. Est-ce que je suis à la place de Dieu? C'est pas moi qui dois me venger. Je ne suis pas à la place de Dieu. C'est réservé à Dieu. Suis-je à la place de Dieu? Vous avez projeté de me faire du mal? Mais parce que vous avez fait, mais Dieu a protégé, a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous voyez la lucidité de Joseph dans cette affaire. Il a accepté que Dieu l'emploie. Il a accepté ce qui s'est passé. Il sait très bien que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Il n'est pas en révolte. Je n'ai pas le droit à la vengeance parce que c'est Dieu qui l'a permis. C'est Dieu qui l'a permis. Alors, quel est l'avantage de reconnaître et d'accepter que Dieu est souverain sur notre vie? D'abord, ben, je reste humble parce que je sais que tout ce qui m'arrive, c'est Dieu, c'est pas moi. Et même si nous avons fait du mal, et même si on nous fait du mal, ce n'est pas une raison de me venger, puisque c'est Dieu qui a planifié cela pour moi. Alors, je rappelle un peu Jésus et la réaction de Jésus. Dieu est amour, jamais il n'amènera l'adversité sur nous, si ce n'est pour un bien supérieur. C'est ça que nous oublions souvent. Dieu a un plan pour nous, mais ce n'est pas un plan de malheur, comme dit Jérémie. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Comment peut-on arriver à être semblable à l'image de son Fils sans adversité? Allez. Parce que son fils a aussi connu l'adversité. Je vous laisse lire. Alors, si j'ai la foi en Dieu, qui est amour, mon cœur reste calme même dans l'adversité. Car je sais que Dieu fait concourir tout pour mon bien. Alors, c'est un domaine de foi. Car je reconnais que les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur. Voilà, on arrive à la conclusion. Qu'est-ce que je dirais ? En réfléchissant un petit peu, est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que vous êtes passé par une terrible adversité, malheur ? Réfléchissez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment j'ai réagi ? Est-ce que j'ai honoré Dieu dans ma réaction, dans ma façon de répondre ? Alors bien que Dieu se situe hors du temps, il tient cependant à calendrier pour les affaires des hommes. Son scénario est prêt depuis longtemps. Il a décidé des événements heureux et parfois des événements difficiles pour chacun d'entre nous. Et il n'y a personne qui est excepté là-dedans. Personne. Vous vous souvenez de celui qui est né aveugle? Vous vous souvenez de ça? On a posé la question à Jésus. Pourquoi? Pourquoi? Et la réponse est quoi? Pour la gloire de Dieu. Est-ce que ça vous suffit? Est-ce que ça me suffit? Je passe par l'adversité. Pour la gloire de Dieu. Ma vie est en fait une vie pour la gloire de Dieu. Le problème, c'est de savoir, mais quelle est ma réaction? Est-ce que vraiment je glorifie Dieu en réalité dans ce que je vis? Alors c'est ça, le but final, c'est ça, la gloire de Dieu. Alors, n'oublions pas cela. Je suis ici pour glorifier Dieu. Vous êtes ici pour glorifier Dieu. Ça, c'est notre tâche. C'est la première chose. Si je rate cela, je rate la raison d'être, ma raison d'être. Alors, dans tous les événements qui se passent, je suis là pour glorifier Dieu. Ça ne change pas. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce temps de réflexion que tu nous as donné ensemble. Te prier, Seigneur, de nous aider à avoir un cœur qui est au clair avec toutes ces choses et te demande, Seigneur, de nous aider aussi dans la pratique de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, qui n'est pas toujours facile, de vraiment avoir le regard sur toi, de nous attendre à toi. Aide-nous de comprendre dans ces moments-là que nous sommes là pour te servir, que toi, Seigneur, tu permets certaines choses pour ta gloire, pour notre bien. Seigneur, aide-nous d'avoir les bonnes attitudes au bon moment. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler que nous sommes ici. Tu nous as créés pour ta gloire. Conduis ton peuple, Seigneur, bénis cette assemblée. Aussi ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, nous te prions de mettre ta main sur eux, de leur accorder ta grâce et ta paix pour la semaine. Merci, Seigneur, pour ta présence et ta fidélité envers nous. Que ton nom soit glorifié, béni. Amen.